Bakrandia, bonjour.
Bonjour.
Donc le projet de loi, est-ce qu'il est prêt?
C'est une très bonne question, puisque je crois qu'il a été examiné en Conseil des ministres, mais il n'est pas encore sur le bureau du Parlement. Et c'était une des questions pour nous, c'est de savoir où en était l'examen de ce projet de loi par le Parlement, parce que c'est une période longue où les victimes sont comptées par centaines de milliers de faits particulièrement atroces qui ont été commis en majorité contre des citoyens congolais. Nous avons reçu l'assurance que des efforts sont entrepris pour que ce projet de loi soit discuté, voire adopté par le Parlement durant la courante session.
Quel type d'assurance?
C'est ce que le gouvernement nous a dit, puisque bien entendu, c'est un mécanisme interne national congolais sur lequel nous n'avons pas de prise.
Alors, des rencontres avec la MONUSCO, avec la société civile, tous ces partenaires, quelles sont leurs attentes?
L'attente des partenaires, c'est qu'il y ait une vision d'ensemble, c'est que d'une part, on mette en œuvre les mécanismes judiciaires, mais nous savons que par définition, une justice de transition ne peut pas mettre un juge derrière chaque coupable, ou bien tous les coupables devant un juge, mais au moins identifier des responsables importants, symboliques, qui vont répondre de cela, évidemment, en bénéficiant de tous les droits de la défense et de la présomption d'innocence. Aussi, envisager la réparation des préjudices des victimes, envisager la question d'un rétablissement de la vérité historique, de la réconciliation, parce qu'elle est indispensable aussi, et de la lutte contre l'impunité.
Avec le gouvernement, vous parliez des chambres spéciales, mais il y a certaines associations de la société civile qui, elles, ont déjà proposé l'établissement d'un tribunal international. En avez-vous parlé avec les acteurs rencontrés?
Non, puisque cette proposition ne fait pas partie des recommandations du rapport mapping. C'était une proposition qui était sur la table, mais qui a été mise de côté au bénéfice d'une chambre mixte où il y aurait à la fois des magistrats congolais et des magistrats non congolais. Mais bien entendu, vous savez qu'il y a une opposition de principe des Nations Unies à l'application de la peine de mort. Nous ne pourrions pas participer, c'est certain, à une justice qui pourrait rendre des sentences de mort. Ça, c'est clair. Et d'autre part aussi, nous avons besoin de justice dont l'indépendance est garantie et d'un procureur qui sera autonome dans la poursuite de sa délicate mission de rassembler les preuves pour envoyer les personnes sur qui les preuves suffisantes ont été réunies devant la juridiction.
C'est-à-dire la justice congolaise elle ne vous fait pas confiance en fait?
Nous avons besoin de garanties dans le texte qui permettent à cette justice d'être rendue à la fois par des Congolais et par des non-Congolais, puisque pour le moment, le Congo ne dispose pas de juridiction qui réponde à ces normes internationales. Nous savons qu'il y a d'importants efforts qui ont été faits au niveau de la justice militaire et que des responsables d'un rang élevé comparaissent devant ces juridictions militaires. Mais, encore une fois, ces efforts sont à poursuivre. Et d'autre part, nous souhaitons que s'il y a des chambres spécialisées, elles puissent donner une impulsion à une justice qui sera rendue à tous les Congolais. Donc il y a un renforcement des capacités de la justice congolaise pour rendre justice.
Y a-t-il des discussions pour poursuivre les auteurs des violations avec le Rwanda et l'Angola?
Il ne faut pas oublier qu'à un moment donné, il y avait presque 9 armées en présence sur le territoire congolais pendant la période incriminée. Et que les violations donc, que nous avons recensées dans ce rapport comportent au moins 7 de ces armées, y compris donc
le Rwanda et l'Angola.
Mais pas seulement le Rwanda et l'Angola, il y a aussi le Burundi, il y a l'Ouganda, il y a d'autres pays. Et ce n'est pas seulement les armées, il y a aussi les groupes armés. Mais le but du rapport n'était pas, encore une fois, d'identifier des individus, mais d'identifier ces phénomènes. On a recensé plus de 600 incidents extrêmement graves de violation des droits de l'homme. Maintenant, c'est à d'autres groupes de poursuivre la tâche pour affiner le travail et trouver les individus qui correspondent, mais au moins on a identifié les groupes. C'était ça qui était le plus important.
Mais est-ce que vous en parlez avec les pays voisins de la RDC en ce qui concerne les poursuites aussi?
Bon, c'est clair que la République démocratique du Congo a accepté le rapport et a courageusement dit nous allons le mettre en œuvre, bien sûr nous allons accompagner cet effort. Mais d'autres pays comme le Rwanda, vous avez bien cité, ou l'Ouganda et d'autres, parmi les 6 ou 7 qui sont concernés, ça n'a pas été la même réaction. Ils ont rejeté le rapport, ils ont contesté la base, ils ont considéré que c'était des allégations sans fondement, mais encore une fois, les faits sont têtus, le rapport est là.
Donc il y a très peu de probabilités de voir des acteurs rwandais, angolais être poursuivis dans le cadre du rapport Mapping.
Vous savez, la justice fait toujours son œuvre et les exemples que nous avons devant nous. Mon premier contact avec la guerre, c'était sur le territoire de l'ex-Yougoslavie. À l'époque, je ne pensais pas qu'un jour, ces personnes comparaîtraient devant une juridiction internationale, mais c'est arrivé.
Il y a eu Milosevic.
Il n'y a pas eu que Milosevic, les heures sont encore en cours. C'est pour vous dire encore une fois, chacun de ces pays qui ont eux-mêmes créé des mécanismes, puisque au Rwanda, vous savez, des mécanismes ont été mis en place, soit des juridictions internationales, soit des mécanismes locaux, comme en Ouganda, il y a eu des chambres qui ont été créées pour rendre compte des périodes de violations graves des droits de l'homme. Nous espérons que ces pays vont pouvoir dire, voilà, c'est un rapport sérieux, des faits extrêmement graves sont cités, nous allons faire les enquêtes qu'il faut, identifier les responsables, parce que c'est comme cela que ces pays pourront dire, nous n'acceptons pas ce qui a été fait. Les individus qui en sont coupables ne sont pas couverts par des groupes, mais sont isolés, identifiés et jugés correctement. Des sentences rendues et des préjudices réparés. Et ce que nous attendons de chacun des pays qui a été visé, c'est de faire des enquêtes sérieuses et de rendre justice aux Congolais, comme aux non-Congolais qui ont été victimes de ces crimes graves.
Bakr Ndiaye, je vous remercie.
Merci.